Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour suivre la série qu'on a entamée il y a quelques semaines sur l'Épître de Jacques et qu'on a intitulée tout simplement « La tête dans les nuages et les deux pieds grandés ». Donc, il est possible d'avoir la tête dans les nuages, mais en même temps avoir les deux pieds sur terre. Nous en sommes ce matin à notre cinquième exposé sur ce livre qui se veut à la base une illustration pratique de qu'est-ce que c'est la foi chrétienne dans le contexte bien précis de l'école de la vie. Ce qui est intéressant chez Jacques, c'est que la théologie, pour lui, n'a de sens que si elle n'est connectée directement à notre vie de tous les jours. Pour lui, la foi chrétienne, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant au point d'être manifesté en action, à la fois par notre bouche, par nos mains, mais aussi par notre cœur. Alors, on a vu au cours des dernières semaines de quelle manière Jacques nous invite, que ce soit dans nos relations les uns avec les autres, à non seulement croire dans l'Évangile, mais qu'on ne peut pas vraiment croire dans cet Évangile sans que cet Évangile-là produise du fruit. On ne peut pas vraiment croire dans l'Évangile sans que celui-ci soit vécu dans notre vie, sans qu'il soit incarné, vraiment de manière très pratique. Que ce soit dans notre couple, au travail, avec nos enfants, avec nos voisins, l'Évangile nous invite à une vie d'action. Une vie où est-ce qu'on est en position spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ, mais que cette position-là nous invite à quelque chose de pratique dans nos vies. Et ce matin, on va étudier un sujet bien précis. On va étudier notre bouche. Bon, moi, je ne suis pas un dentiste, je ne suis pas un denturologiste, mais on va voir exactement le texte qu'on va voir ce matin. Alors, on va lire ce matin le chapitre 3, versets 1 à 18 de l'Épître de Jacques. Et pour étudier ce sujet éminemment pratique, qu'est le sujet de la langue? Comment je peux utiliser ma langue pour bien vivre l'Évangile dans ma vie? Alors, sans plus tarder, je vais inviter mon frère Luc à bien vouloir de lire le texte en question.
Donc, on reprend chapitre 3, versets 1 à 18 dans Louis II. Chapitre 3, versets 1 à 18. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pour elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne? Des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Laquelle d'entre nous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
Merci, Luc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je pense à la langue, je pense à un petit tissu de muscles qui me permet de faire du bien autour de moi. La langue, par exemple, me permet de dire à quelqu'un d'autre, « Je t'aime, je t'apprécie » ou encore « Je suis fier de toi ». Avec la langue, on peut vraiment faire de belles et grandes choses. Le texte ici nous présente, pour le moins, on dirait, oui, la langue, mais sous un autre jour que celui que je viens de vous présenter. Le texte qu'on vient de lire nous présente la langue comme étant un organe plutôt capricieux, plus souvent qu'autrement, et qui, par la même occasion, peut causer bien du dégât dans nos vies. D'une certaine manière, si on voulait résumer la pensée de Jacques sur la langue, voici ce qu'on pourrait dire à son sujet. La langue est une bête indomptable. La langue est une bête indomptable qui se doit d'être maîtrisée là où on ne peut rien faire. C'est ça qu'on nous dit le texte. La langue est une bête indomptable qui se doit d'être maîtrisée là où on ne peut rien faire, mais où l'Évangile de Dieu peut tout. Ce qu'on nous présente ici, c'est un petit tissu de muscles qui dirige beaucoup de choses dans nos vies. La langue est vraiment le gouvernail. Un gouvernail qui est aussi comme une flamme dans une forêt qui peut engendrer toutes sortes de dégâts. Et la manière qu'on nous présente la langue dans le chapitre 3 de Jacques, c'est vraiment un organe incontrôlable que l'être humain ne peut pas maîtriser à lui tout seul. Combien de fois cette semaine est-ce que j'ai dit des choses que je ne voulais pas dire? Combien de fois cette semaine est-ce que ma langue a articulé des mots qui ont dépassé ma pensée? Je ne suis pas persuadé que je suis le seul dans ce club-là. Je suis convaincu que cette semaine, il y a peut-être des situations qui vous reviennent ou est-ce que vous avez regretté certaines choses qui sont sorties de votre bouche, des choses qui ont peut-être causé du dégât et peut-être même beaucoup de dégâts autour de vous. Et c'est exactement de cette manière-là que Jacques nous présente vraiment la langue comme étant une bête indomptable. Et regardez ce que nous dit à ce sujet le verset 5. Verset 5 à, donnez-moi un instant, les versets 5 à 8. Donc, chapitre 3, verset 5 à 8, voici ce que Jacques nous dit. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et inflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Qu'est-ce que Jacques vient de nous dire ici au sujet de la langue? Bien, ce qu'il nous dit, c'est la chose suivante. La langue est une arme. Pas n'importe quelle sorte d'arme. Une arme dont l'œuvre en est une de destruction massive. Avec le mal, avec la langue, on peut faire beaucoup de mal. J'ai découvert un proverbe cette semaine en naviguant un peu sur le net, et le proverbe dit la chose suivante. Même si la langue n'a pas d'os, elle peut en briser néanmoins beaucoup. Je suis convaincu que dans votre vie, quelqu'un a pu déjà dire quelque chose qui vous a plus fait de mal, peut-être qu'un coup de poing sur la mâchoire. Je vous donne simplement un exemple. Quand j'étais en sixième année au primaire, je devais avoir environ 11 ans. Je suis assis en arrière de la classe. Tout le monde est calme, tout le monde est en train de faire ses travaux. Tout d'un coup, le professeur se met à me regarder fixement. Je sais pas pourquoi, de manière inattendue, sans que je m'y attende. Il me regarde et tout d'un coup, le professeur dit ceci devant toute la classe. Écoute, tu sais, Miguel, s'il y a une chose que je suis convaincu à ton sujet, c'est que l'année prochaine, oui, tu vas au secondaire, mais je suis convaincu que tu vas revenir au primaire. Je suis convaincu que l'année prochaine, je vais te revoir ici, dans cette école-là, quelque part. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Mon petit cœur d'enfant, c'est comme s'il avait reçu un coup de couteau dans le cœur. On m'aurait cassé les deux jambes, que ça m'aurait pas fait plus mal que ça. Avec la langue, on peut vraiment détruire quelqu'un. Et je suis convaincu que vous auriez peut-être des anecdotes, des situations que vous avez déjà vécues, où est-ce que quelqu'un vous a parlé avec soit une insulte, un propos désobligeant, quelque chose qui vous a fait profondément mal. On a tous déjà, à quelque part, goûté à la médecine de la langue de quelqu'un, goûté à son venin. La langue, dans la pensée de Jacques, c'est vraiment une bête indomptable. Ça, c'est le risque de vivre. Dès qu'un être humain entre en interaction avec quelqu'un, notre langue a le pouvoir de blesser quelqu'un ou d'être elle-même blessée. Il est facile de comprendre alors à ce moment-là pourquoi Jacques, dans le premier chapitre, nous invite plutôt le croyant à être lent à parler et prompt à écouter. Et ce que l'auteur nous dit d'une certaine manière, c'est que Jacques, sait très bien que la langue peut faire beaucoup de mal. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 2. Jacques nous dit ceci au sujet de la langue dont est animé l'être humain. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Ce que Jacques ici nous dit semble un peu paradoxal. Ce qu'il nous dit, c'est que si quelqu'un arrive à maîtriser sa langue, ben il va avoir le dessus dans toutes les dimensions de son corps. C'est comme si la langue était le chef d'orchestre de notre corps. Mais en même temps, Jacques admet également que c'est impossible de faire ça, car nous bronchons tous de plusieurs manières en ce qui concerne notre langue. Ce n'est pas un acte naturel pour l'être humain de maîtriser sa langue. C'est même une impossibilité en soi. C'est un acte contre nature. L'être humain ne peut pas relever ce défi-là. Regardez notamment ce qu'il dit à partir du verset 9, Jacques. Il continue dans la même veine lorsqu'il dit « Par elle, en parlant de la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qu'est-ce que Jacques vient de dire ici? Eh bien, il dit que de l'être humain sort à la fois la malédiction et la bénédiction. Ce qu'il dit finalement, c'est que quand l'être humain parle, l'œuvre que l'être humain peut accomplir, elle est par nature une œuvre incohérente. Ce que Jacques dit ici, c'est que l'être humain, il y a un étrange paradoxe à l'intérieur de lui qui fait que de sa langue sort naturellement la malédiction et la bénédiction. De la même langue sort l'amour et la haine. La tolérance et la colère. L'empathie et le « je m'en foutisme », l'indifférence. De la même bouche sort le feu et la glace. Et qu'est-ce que Jacques dit à ce sujet? C'est quoi la résultante, c'est quoi la conclusion à laquelle il en vient au sujet de cette observation-là, de ce que dit notre langue? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mais pourquoi? Why not? Hein? Qu'est-ce qui est paradoxal dans l'être humain? Est-ce que c'est, tu viens juste de dire qu'on bronche en plusieurs manières à travers notre parole, que c'est tout à fait naturel pour l'être humain qui sorte à la fois la bénédiction puis la bénédiction dans nos paroles? Puis là, tu viens nous dire, genre, qu'il ne faut pas qu'il en soit ici. Dis, qu'est-ce que tu veux dire? En quoi c'est paradoxal que je suis qui je suis en tant qu'être humain, c'est-à-dire que de ma langue sorte à la fois le bien et le mal? S'il sort plus de bien que de mal, ben, à un moment donné, ça va se rééquilibrer tout ça, puis le bien va l'emporter sur le mal. C'est comme ça que notre monde actuel pense. Si de notre langue, il sort plus de bien que de mal, eh bien, à ce moment-là, on est un bon Jack. On est quelqu'un qui fait plus de bien au monde autour de nous que de mal. Mais Jacques ici nous invite à aller plus loin que ce que le monde pense. Il dit, c'est pas normal que de votre bouche sorte à la fois le feu et la glace. À qui est-ce que Jacques parle ici? À quel genre de personne Jacques parle-t-il? Il parle à des croyants. Il parle à des gens. Il parle à des gens dont Dieu, par la foi, a donné quelque chose que les autres êtres humains n'ont pas. Et cette chose, c'est une vie spirituelle. C'est une nouvelle identité. C'est un projet de vie. Et ce que Paul dit aux gens ici, c'est que d'une certaine manière, il parle à des gens qui autrefois étaient animés par les caprices de la langue, mais que Dieu a agi en leur faveur afin qu'ils n'en soient plus ainsi. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je pense à Paul ces temps-ci, peut-être parce qu'on s'en va dans Éphésiens. Mais Jacques nous fait vraiment valoir ici, il pose une contradiction très claire entre la nature naturelle, la nature de l'être humain qui est le feu et la glace sort de ma bouche. Puis en même temps, il dit, il n'est pas normal que les croyants qui ont mis leur confiance en Dieu pour avoir cette nouvelle vie-là, pour maîtriser leur langue, il n'est pas normal que les croyants, ça soit ainsi. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Éphésiens, chapitre 2. On va voir c'est quoi ce genre de vie-là que Dieu a donné aux décroyants pour qu'ils puissent maîtriser leur langue d'une autre manière que le monde peut le faire. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous dit ceci. Je vous laisse tranquillement aller à votre texte. Éphésiens chapitre 1. Chapitre 2, pardon. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Donc là, gardez à l'esprit ici que Paul est en train de parler à des croyants qui sont nés de nouveau. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On était pareils comme eux. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Notre langue, de elle sortait le feu et la glace. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le passage ici nous dit clairement que si je peux maîtriser ma langue pour moins faire de mal et même de plus faire de mal, puis être rendu au point que Jacques me dise, « Wow! » OK, maintenant, tu es arrivé à dompter ta langue. Eh bien, c'est pas parce que j'essaye de le faire. C'est pas parce que j'ai un to-do list que Dr. Phil ou Oprah m'a donné pour mieux maîtriser ma langue. C'est pas ça qui va faire que je peux maîtriser ma langue. Ce qui va faire que je peux maîtriser ma langue, c'est l'intervention divine. Une intervention divine où Dieu sème en moi une vie spirituelle, où je suis réconcilié avec lui, et qui va permettre à cette vie-là d'exploser au grand jour dans mon quotidien, de manière extraordinaire, où c'est Dieu qui intervient en me donnant un projet de vie qu'avant, j'avais pas la ressource nécessaire pour le faire. Il me procure cette vie-là par la foi. Si on retourne dans Jacques, chapitre 3, voici ce que nous dit le verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est animé de la vie que Dieu donne? Lequel d'entre vous est capable de maîtriser sa langue grâce à la sagesse que Dieu peut donner à quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est pas capable de maîtriser sa langue, mais qui dit « Seigneur, viens faire une œuvre en moi parce que moi, ce que ma langue fait, c'est simplement des paradoxes, c'est des dichotomies, c'est des incohérences, je produis le feu et la glace, viens et interviens. » Celui qui est animé de cette vie-là, voici ce qu'il doit faire. Voici le résultat. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Voyez-vous ici, c'est quoi le lien entre la foi chrétienne qui sauve, la vraie nouvelle naissance, et les œuvres? Voyez-vous le lien? Les œuvres sont la manifestation du projet de vie que Dieu a implanté en moi et qui me permet d'arriver au standard que cette vie-là qu'il a mis en moi me mène. Cette langue-là qui est maîtrisée, ce n'est pas le fruit de mes expériences de vie. Cette langue-là qui est maîtrisée, ce n'est pas le fruit du fait que je veuille ou non. Ça ne dépend pas de mes capacités naturelles en tant qu'être humain. Ma capacité à maîtriser ma langue dépend entièrement de la vie que Dieu a mis en moi. Et plus je suis près de cette vie-là que Dieu a mis en moi, plus j'y suis sensible. Et c'est là que Dieu nous donne la capacité de maîtriser notre langue. Ce n'est pas une question de vouloir. Ce n'est même pas une question de faire. C'est une question d'identité. La seule manière pour nous de maîtriser cette langue qui produit du mal, c'est de comprendre qui je suis vraiment pour que Dieu change qui je suis vraiment et qu'il fasse de moi quelqu'un qui dépende entièrement de lui, de la vie qu'il a mis dans mon cœur. On a plusieurs valeurs qu'on s'est données à l'Église il y a quelques mois de cela. Et une de ces valeurs-là, c'est d'être une Église qui est émerveillée par l'Évangile. Une de ces valeurs-là, c'est d'être également reconnue comme une Église généreuse, qui accueille le pauvre et l'orphelin, celui qui est malheureux, celui qui est démuni. Et ça, on peut le faire avec nos mains, bien sûr, mais on peut le faire également avec notre langue. Dire bonjour avec quelqu'un, avec un sourire, c'est une manière de l'accueillir. Aller consoler quelqu'un, aller l'encourager, l'édifier, aller accueillir quelqu'un qui est exclu ou isolé, que ça fait 10 minutes qu'il tourne en rond parce qu'il voudrait parler à quelqu'un, mais il ne sait pas à qui, puis il n'oserait pas. Puis là, on ose aller le voir, même si on ne la connaît pas. C'est une manière de se servir de notre langue pour être en mission. Une mission où est-ce que c'est Dieu qui agit dans mon cœur et qui me fait intégrer dans sa mission à lui et non pas la mienne. Les gens qui sont autour de nous sont les spectateurs de quelque chose au sujet de ce qu'on leur dit. Ils voient notre langue parler. Et la question qu'on peut se poser, c'est: mon entourage, là, quand il m'entend parler, de quoi est-il l'auditeur? Qu'est-ce qu'il entend de ma bouche? Et est-ce que je suis fier de ce que ces gens-là entendent? Poser la question, c'est y répondre. La plupart du temps, je ne suis pas fier de ce que mes enfants entendent, de ce qui sort de ma bouche. Et je ne suis pas fier souvent de ce que ma femme entend et qui sort de ma bouche. Ça ne me rend pas digne, je ne suis pas sa coche avec eux 24 heures sur 24. Des fois oui, des fois non. Et ça, ça ne dépend pas de moi. Et Et la question qu'on peut se poser alors, c'est la suivante. OK, Miguel, je comprends que ma langue, c'est une arme de destruction massive, que je peux faire du mal autour de moi, beaucoup de mal, du mal que souvent je ne veux pas. Je comprends que j'ai besoin que Dieu me donne une nouvelle forme de vie, qui me donne une sagesse que je n'ai pas naturellement. J'ai besoin que Dieu fasse une œuvre dans ma vie. Mais cette œuvre-là, à quoi elle ressemble exactement? En quoi la vie que Dieu va me donner va me permettre d'avoir un autre type de langue que celle que j'ai naturellement? C'est quoi le résultat de la langue qui est maîtrisée par l'Évangile de Dieu? Mais tournez avec moi. Tournez avec moi à la fin du chapitre 3, à partir du verset 14. Verset 14 nous dit ceci au sujet de la langue et de la sagesse que Dieu donne. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, celle que Dieu donne. Voici ce que la langue qui est maîtrisée par l'Évangile de Dieu produit. Elle produit une sagesse qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ce que Jacques nous dit ici, c'est que la sagesse d'en haut, l'œuvre qui est produite par la langue, qui est maîtrisée par l'Évangile de Dieu, c'est une vie où Dieu agit dans nous de manière merveilleuse. On voit ici la langue, non pas comme l'être humain la contrôle, mais comme Dieu la contrôle dans nos vies. C'est lui qui tient les rênes et cette langue-là ressemble à quelque chose qui est pur, qui est conciliant, qui est modéré, qui est pacifique, qui est exempt de duplicité. C'est-à-dire qu'il est exempt d'hypocrisie. Il joue pas, c'est pas un visage à deux faces. Elle est franche, elle est honnête, elle est responsable. Cette sagesse-là, on en est privé naturellement. La sagesse n'est pas celle qui permet d'avoir le dessus sur quelqu'un dans un argument. Ça, ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. Le but, ce n'est pas d'avoir dans notre sagesse le dessus dans un débat face à quelqu'un. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, ce n'est pas que moi, par mon argument, j'arrive à convaincre l'autre. Souvent, dans notre monde dans lequel on vit, c'est ça la sagesse. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un, puis par sa manière de décortiquer ou analyser une situation, qui arrive à défaire l'autre puis prouver que la sienne est meilleure. Ça, c'est une sagesse vue aux yeux des hommes. Alors que Dieu nous montre ici que la vraie sagesse, l'être humain en est privé naturellement. Et que c'est cette sagesse-là d'en haut qui va nous permettre de maîtriser notre langue pour vivre l'Évangile entre nous, dans l'Église et l'Église avec le monde à l'extérieur. Dans notre manière de gérer nos conflits, dans notre manière de traiter nos tensions qu'on peut avoir les uns avec les autres, nos doutes, nos inquiétudes, nos angoisses, comment notre langue réagit face à tout cela. Si on n'est pas différent dans notre manière de gérer tout ça, que les gens de ce monde... Eh bien, pourquoi les gens de ce monde seraient impressionnés par notre foi? Il n'y aurait aucune raison, on réagit pareil comme eux. Vous savez, il y a une chose dans notre société que les gens ont besoin. Les Québécois. Les Québécois ont besoin d'une chose. Oui, ils ont besoin de l'Évangile. Mais un des grands obstacles qui les éloigne de l'Évangile, c'est que très peu souvent, ils voient des vies transformées par l'Évangile autour d'eux. Ils ne sont pas les spectateurs d'un évangile qui fait une œuvre divine dans nos vies. Souvent, on ne laisse pas assez de place à cette vie-là pour maîtriser notre langue. Et ce que nous dit ici le texte de Jacques, c'est exactement la phrase qu'on a vue tout à l'heure. La langue est une bête indomptable qui se doit d'être maîtrisée, là où on ne peut rien faire, mais où l'Évangile de Dieu peut tout. C'est-à-dire que la manière pour nous de maîtriser notre langue, c'est de s'attaquer directement à où la langue puise sa force. Et où est-ce que la langue puise sa force? Notre cœur. Jésus nous le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si je ne prends pas soin de mon cœur, ma langue, je ne peux pas la maîtriser. Ce qui va sortir de ma langue, c'est ce que mon cœur se nourrit. Et je ne peux pas combattre ma langue sans m'attaquer là où ça fait mal. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'Antiquité, une histoire de l'Antiquité grecque. Je suis convaincu qu'il y a parmi vous, il y en a beaucoup qui connaissent Hercule. Vous connaissez Hercule, le fameux héros grec de l'Antiquité. Alors, je vous raconte brièvement qui est Hercule et ce qu'il a fait. Hercule, c'est un héros, un récit, une légende, c'est un mythe, là. Hercule, c'est pas un vrai personnage historique. Alors, dans le récit de l'Antiquité, Hercule était un homme qui avait commis une grande faute envers sa famille. Et pour expier la faute qu'il avait faite envers sa famille, eh bien, on l'a condamné à accomplir 12 travaux. Il y en a qui vont peut-être penser aux 12 travaux d'Astérix, là. Bon, on va le revoir bientôt, là, les 12 travaux d'Astérix. Si les cadeaux arrivent, là, ça sera pas long. Alors, c'est inspiré des 12 travaux d'Hercule. Et dans un de ces travaux-là, ce que Hercule doit faire, c'est qu'il doit aller aux enfers. Il doit descendre dans les régions inférieures de la terre. Et là, je ne fais pas un discours théologique, là. Comprenez un peu le sens de ce que je viens de dire, là, c'est une image. Alors, un des travaux qu'Hercule doit faire, c'est de descendre aux enfers pour dompter une bête qui s'appelle Cerbère. Beau petit toutou. Alors, qui est Cerbère? Cerbère, c'est le gardien des enfers. Une espèce de bête féroce à trois têtes, une queue de dragon, et qui avait la particularité d'émettre des sons extrêmement aigus qui paralysaient l'adversaire. Et là, à ce moment, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Et là, à ce moment-là, on demande donc à Hercule, sans l'aide d'aucune arme, de dompter Cerbère, ce que personne n'avait réussi jusqu'à maintenant. Alors, évidemment, Hercule s'avance vers Cerbère, sournoisement, sans se faire voir. Et mettez-vous dans sa peau. Qu'est-ce que vous faites à la place d'Hercule? Vous n'avez pas de javelot, pas d'épée, rien d'autre. Puis vous devez dompter cette bête féroce-là. Où est-ce que vous vous attaqueriez pour le dompter? Le cou! Si Hercule s'attaque au cou, la bête ne peut pas crier. Elle ne peut pas mordre. Alors, Hercule, ce qu'il fait, oui, Caïssa. Oui, mais il y a quand même un coup où se réunissent les trois têtes. C'est bon, on retourne à l'image du Cerbère. Ça, les trois têtes sont réunies à un coup. Alors, Hercule empoigne Cerbère par le cou. Il le serre si fort que la bête ne peut pas crier, elle ne peut pas le mordre. Il le serre si fort que Cerbère doit abdiquer. Hercule arrive à dompter l'indomptable. Et en ce qui concerne notre langue, c'est la même chose. Pour nous, la seule manière de maîtriser la langue par l'Évangile de Dieu, c'est pas de faire plus d'efforts. C'est pas à force de volonté qu'on peut maîtriser la langue que l'on a dans la bouche. Jacques le dit, c'est une bête indomptable qu'on ne peut pas maîtriser tout seul. On a besoin absolument d'une intervention divine. On a besoin de s'attaquer à la langue là où ça fait mal. Et la langue trouve sa force dans qui nous sommes. Nous sommes des êtres pécheurs et imparfaits. Et à cause de cela, notre langue souvent trébuche et faillit en maintes occasions. Donc, pour nous, la seule manière de maîtriser notre langue, c'est quoi? S'attaquer directement là où on nourrit la langue. Notre cœur, dans qui nous sommes. C'est une question d'identité et non pas de capacité. Si nous désirons que notre langue soit un outil de bénédiction, tout ce que nous pouvons faire, c'est s'en prendre là où ça fait mal. De changer notre identité par notre foi dans celui seul qui peut changer notre identité de pécheur à un être qui est réconcilié avec Dieu. Admettre cette incapacité à traiter ma langue comme Dieu veut le faire et dire à Dieu, « Regarde, toi seul peux faire cette œuvre-là dans ma vie. Toi seul peux changer le cœur que j'ai. Toi seul peux le nourrir. Oui, moi, ma responsabilité à moi, c'est de prendre les outils que tu m'as donnés pour pouvoir nourrir le cœur. Tu m'as donné toutes les ressources possibles pour bien maîtriser cette ressource-là. Et que ma langue, comme disait le verset 18, que ma langue puisse devenir d'une arme de destruction massive, un artisan de paix. Le verset 18 nous dit, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. » Dans Galates, Paul nous dit que par la foi en lui, en Jésus-Christ, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est un changement d'identité. Ça, c'est un changement de qui je suis vraiment. Je ne suis plus moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à ce moment-là, lorsque je m'approche de Christ, c'est là que ma langue peut devenir comme Christ. Pas en faisant des choses pour lui, mais que lui fasse des choses en moi, en m'approchant de lui, en méditant sur lui, dans la prière, par ma communion fraternelle, par le jeûne, de toujours m'approcher et de me faire saisir, constamment émerveillé par cet être admirable qu'est Jésus-Christ, qui produit la paix. Ma larme est une arme de destruction massive, mais on n'est pas des victimes. Dieu peut changer cela pour qu'elle puisse devenir un artisan de paix. Je vais vous donner un petit exemple. On va pouvoir conclure là-dessus. Il y a 2 semaines de cela, Laura et moi, on est revenus de l'Assemblée, on est revenus de l'Église et on avait une belle surprise qui nous attendait à la maison. Vous savez tous que je suis en phase de vendre ma maison à Montréal pour venir m'établir à Longueuil. Et dimanche, il y a 2 semaines, on est arrivé à la maison et on avait 3 offres d'achat sur la table. Pas une, pas deux, on en avait 3. Mais ce que vous devez savoir, c'est que parmi ces 3-là, il y avait certaines raisons qui nous faisaient croire que notre agent d'immeuble essayait de nous en passer une petite vite au niveau de sa commission. On a, sincèrement, Laura et moi, quand on regardait la situation, je vous évite les détails, là, mais sincèrement, on a soupçonné le mal. On avait des preuves pour soupçonner le mal. Et ce qui est arrivé, c'est que notre langue, capricieuse comme elle est, a dit des mots qui ont dépassé nos pensées. Parce qu'on soupçonnait le mal. Et durant la nuit, juste avant notre rencontre, avant l'agent d'immeuble, pendant que moi, je dormais comme un loir, bien évidemment, Laura, elle ne dormait pas. T'sais. Et puis, elle a pris sa Bible, et puis elle est tombée sur ce verset 18 de l'Épître de Jacques. Le fruit de la justice qui est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Et là, ce qu'elle se disait, non, regarde là, je ne suis pas en train de semer la paix en soupçonnant le mal. Je ne suis pas en train d'être un artisan de paix en soupçonnant le mal. Ce que je suis plutôt, c'est un artisan de méfiance. Et sincèrement, on n'était vraiment pas à paix là-dedans. Et elle m'a partagé ce verset-là au déjeuner le matin et on s'est dit, notre langue a fourché. Vraiment, les soupçons qu'on avait ont eu le dessus sur notre nature, la nature que Dieu a implantée en nous. Et ce qui est arrivé, c'est que l'agent d'immeuble non plus n'avait pas dormi de la nuit face à la situation. Et on s'est rencontrés l'après-midi et on a mis nos cartes sur la table avec lui. On s'est vraiment excusé, lui a demandé pardon pour le soupçon qu'on avait eu envers lui. Le fait de ne pas avoir été diligent et vigilant à l'égard des caprices de notre langue, d'avoir soupçonné le mal. Et lui, après ça, il a admis ses torts. Et la paix qui s'est installée à partir de là, mes amis, c'était surréaliste. Dans le sens qu'on a expérimenté le fait de vivre d'une arme de destruction massive à être des artisans de paix. Et ça, je veux vous encourager, mes frères et mes sœurs, si dans votre vie, vous vous apercevez que vous vous dites, « Miguel, je ne suis pas capable, c'est plus fort que moi, ma langue affourche constamment, je fais le mal que je ne veux pas, je fais le tort que je ne veux pas, je fais le dommage que je ne veux pas », ben moi, j'ai juste une parole à vous dire, bienvenue dans l'équipe, bienvenue dans le club, là, on est tous dans le même bateau. Mais on n'est pas obligé de rester là. » elle ne peut pas rester là. On n'est pas obligé de rester là. Dieu a pour nous un plan beaucoup plus magnifique. C'est que l'Évangile transforme qui nous sommes pour qu'ensuite notre langue puisse refléter qui nous sommes vraiment par la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire des artisans de paix. Dans quelques instants, on va élever nos âmes, on va élever nos cœurs, on va également, par nos langues, célébrer celui par qui on peut dompter l'indomptable. Pas parce qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, mais tout simplement parce qu'on est des êtres graciés. Parce qu'on est des êtres que Dieu a bien voulu, dans sa miséricorde, amener vers lui, intégrer dans un projet de vie merveilleux où est-ce que notre vie est destinée à représenter et à refléter qui il est, lui. S'il y a une chose dans ma vie auquel je veux que ma vie ressemble, et j'espère que c'est votre cas aussi, c'est que notre cœur, notre langue et nos mains puissent refléter celui par qui tout notre espoir dans la vie repose, la personne de Jésus-Christ. Lui, il peut étouffer le Cerbère à notre place. On n'est pas des Hercules, mais Dieu l'est, lui, infiniment plus. Et par son Évangile, en nous approchant de lui, comprendre la magnificence de son amour pour mieux maîtriser ce qui est indomptable en nous et que Dieu, à lui, soit la gloire. On va se courber dans quelques moments de prière. Seigneur grand Dieu, c'est toi qui es magnifique dans les cieux et sur la terre. C'est toi qui, dans un élan de générosité, es venu vers nous pour nous accorder cette sagesse qui vient d'en haut et par laquelle notre langue peut devenir d'une arme de destruction massive à un artisan de paix. Notre prière pour nous ce matin, c'est de reconnaître qui nous sommes vraiment et notre besoin d'être changés constamment dans cette vie, Seigneur, qui nous affronte et qui souvent nous attaque de tous lieux. Nous sommes à toi. On veut reconnaître que tu as tout changé en nous. Même dans notre identité la plus profonde, nous voulons t'exprimer notre désir de renoncer à qui nous sommes, afin que les bienfaits de qui tu es puissent être proclamés et vus par le monde entier, particulièrement ici à Longueuil. Apprends-nous. Apprends-nous à maîtriser notre langue, non pas parce que nous sommes meilleurs que tout le monde, mais parce que toi, tu es le seul Dieu de l'univers qui existe et qui peut faire cette œuvre en nous, une œuvre de lumière et non de ténèbres. Puisses-tu nous rendre à ton image, toujours en nous approchant de toi. Au nom de ton Fils. Amen.